Bonsoir. Dialogue entre Congolais d'aujourd'hui reçoit un invité spécial, Albert Zeufa, qui est directeur des opérations pour la République démocratique du Congo, l'Angola, le Burundi et Sao Tomé et Principe. Au menu de cette émission, quelles sont les priorités de la Banque mondiale en RDC? Quels sont les projets déjà réalisés par la Banque mondiale sur les 5 dernières années en RDC et dans quel domaine? Que faut-il pour promouvoir une croissance plus soutenue et plus inclusive en RDC? Quel est aujourd'hui le plus grand défi en matière de bonne gouvernance pour la RDC? Les réponses à toutes ces questions, c'est tout à l'heure avec le directeur des opérations pour la République démocratique du Congo, l'Angola, le Burundi et Sao Tomé et Principe. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, ces sujets vous intéressent, écrivez-nous à dec@radiokapi.net ou encore allez sur notre page Facebook Dialogue entre Congolais-Radio Okapi. Vous pouvez aussi nous suivre sur www.radiokapi.net ou sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net.
La croissance économique a grimpé en RDC à 8,6% en 2022, dans la continuité de la forte dynamique enregistrée en 2021, où elle était de 6,2%. C'est ce qu'indique une analyse de la Banque mondiale sur l'avenir de l'Afrique. D'après la Banque mondiale, la croissance de la RDC a été portée par le secteur minier en raison de l'augmentation des capacités de production du cuivre et du cobalt et de la forte demande mondiale. Toutefois, la croissance en dehors de ce secteur a été modeste, souligne la Banque mondiale. Selon cette institution, les perspectives à moyen terme pour la RDC sont favorables. Les estimations prévoient une croissance de 7,5% en 2025. Cependant, son économie reste vulnérable aux fluctuations des prix des produits de base et aux performances des croissances de ses principaux partenaires commerciaux, elle-même exposée au risque des perturbations liées aux conflits géopolitiques. Bonsoir, Monsieur Albert Zeufak.
Bonsoir, Kelly.
Alors, je rappelle que vous êtes les directeurs des opérations pour la République démocratique du Congo, l'Angola, le Burundi et le Sao Tomé et Principe.
C'est exact.
Première question, comment se porte la Banque mondiale?
Écoutez, avant toute chose, permettez-moi de présenter mes condoléances à la population de Kalehe, au sud Kivu, et à toutes les familles congolaises qui ont perdu leur... parents dans la catastrophe naturelle. Naturellement, on parle des inondations, les glissements de terrain qui s'est produite dans cette partie du pays. Nous nous associons aux efforts de mobilisation, de réponse humanitaire et nous tenons disposés à continuer à soutenir le gouvernement pour assister ces populations. Alors, comment se porte la Banque mondiale? Nous pensons que la Banque mondiale continue de travailler avec les populations, avec les gouvernements de nos pays, et surtout ici en République démocratique du Congo, pour réaliser un certain nombre de projets. Et nous pensons que ça va plutôt bien. Vous savez, pour la République démocratique du Congo, le portefeuille de la Banque mondiale, c'est-à-dire le montant des engagements que nous avons, a quadruplé les 5 dernières années. Nous sommes passés de 2 milliards de dollars à près de 8,5 milliards de dollars en juin. En juin prochain, nous aurons atteint 8,5 milliards de dollars. C'est suffisamment costaud pour pouvoir soutenir les efforts du gouvernement pour changer la vie des Congolais.
Donc, justement, on parlera de la mission de la Banque mondiale en RDC. Les auditeurs, ils sont nombreux à se demander que fait exactement la Banque mondiale en RDC. Cette émission, elle est aussi pédagogique pour essayer d'expliquer aux auditeurs qui sont très nombreux à nous suivre la mission du groupe de la Banque mondiale en RDC. Il y a quelques semaines, vous avez publié une analyse dans laquelle vous avez salué la croissance de la RDC en 2022 qui a grimpé à 8,6% dans la continuité de la forte dynamique enregistrée en 2021 où elle était à 6,2%. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la RDC maintienne cette croissance pour les prochaines années?
Très bien. Quel est le rôle, n'est-ce pas, du groupe de la Banque mondiale important à comprendre? que faisons-nous en tant que groupe? Notre mission, c'est de lutter contre l'extrême pauvreté, de travailler avec les pays pour éradiquer la pauvreté et promouvoir la prospérité partagée. Ça, c'est notre mission. C'est-à-dire que nous travaillons avec les gouvernements pour améliorer les conditions de vie des populations et s'assurer qu'il y ait un secteur privé dynamique qui crée des emplois, qui élimine le chômage et qui permette aux pays, aux populations des pays, de mieux se sentir et de sentir cette croissance dont vous parlez dans leur poche. En fait, lorsque nous parlons de la croissance, il s'agit de la croissance du produit intérieur brut, mais il ne s'agit pas tout ce qui se passe dans le domaine du développement. La croissance est juste une partie, n'est-ce pas? Nous, il est important pour nos pays d'augmenter le taux de croissance, mais la croissance doit être partagée. Alors, une croissance comme celle de la République démocratique du Congo, et nous saluons le fait qu'elle soit très forte, elle est à plus de 8% en 2022, et nous projectons qu'elle soit à plus de 7% encore en 2023. C'est excellent comme nouvelle, mais cela ne suffit pas. Et pour deux raisons.
Lesquelles?
La première, c'est que si vous comparez la République démocratique du Congo à des pays d'Asie du Sud-Est qui étaient comme nous il y a 50 ans, mais qui nous ont depuis lors largement dépassés, à ce niveau de croissance, à ce niveau de développement, ces pays faisaient des croissances à deux chiffres. Donc, même 8% de croissance, ce n'est pas suffisant si on veut éradiquer la pauvreté en une génération. Ça, c'est très important. La deuxième raison, c'est que la croissance dans ces pays-là qui ont pu éradiquer la pauvreté était une croissance plus diversifiée. Pas seulement une croissance tirée par un secteur minier qui essentiellement est constitué d'exporter des matières brutes ou quasi-brutes. Donc, pour que cette croissance soit plus inclusive pour les Congolais, c'est-à-dire pour que cette croissance soit ressentie dans les poches des Congolais, il faut qu'elle soit plus diversifiée. Il faut que le Congo, désormais, exporte des produits transformés, pas seulement se contenter de creuser et vendre. Des produits transformés, et c'est en transformant, c'est en s'industrialisant qu'on crée des emplois qui distribue des revenus plus élevés à tous les Congolais. Voilà comment les pays éradiquent la pauvreté.
La Banque mondiale est en RDC, elle collabore avec le gouvernement congolais. Quelles sont aujourd'hui vos relations avec le gouvernement congolais?
Nos relations sont très très bonnes avec le gouvernement congolais parce que nous travaillons avec eux pour pouvoir résoudre ces problèmes. Laissez-moi vous donner juste quelques priorités sur lesquelles nous travaillons. La Banque mondiale au Congo a des priorités qui s'articulent autour de cinq thèmes. Le premier, c'est l'investissement dans le capital humain. Et vous savez, quand le président de la RDC, a lancé le programme de gratuité de l'éducation, la Banque mondiale s'est mise à son côté pour essayer de supporter ce programme. Nous sommes fiers de travailler avec le gouvernement pour s'assurer que les enfants congolais puissent aller à l'école gratuitement. Et nous avons soutenu cet effort avec un projet de près de 800 millions de dollars et qui contribue aujourd'hui effectivement à la mécanisation des maîtres, à faire en sorte que plus de 3,5 millions d'enfants additionnels soient rentrés dans les écoles. Voilà une des choses que nous faisons, par exemple. Ça fait partie de notre priorité d'investir dans le capital humain. C'est-à-dire que c'est dans l'homme que nous devons mettre tous nos ressources si on veut que les pays avancent. Nous avons un projet, qui soutient la gratuité, où nous continuons effectivement de décaisser pour supporter la gratuité. Nous sommes même en train de finaliser notre projet qui vient d'être approuvé par le conseil d'administration pour supporter l'éducation des filles dans l'enseignement secondaire. Nous avons fait passer un projet à notre conseil d'administration de 400 millions de dollars le 28 mars dernier pour continuer à supporter la transition de ces enfants du primaire vers le secondaire, surtout la jeune fille, et ce faisant, la protéger contre toutes les violences sexuelles, toutes les violences qu'elle souffre dans le système éducatif.
Deuxième priorité.
Deuxième priorité, c'est l'investissement dans les infrastructures. Alors, dans l'infrastructure, nous pensons aux routes, à l'énergie, à l'eau, au développement urbain. Et dans ces domaines, nous avons des projets qui nous avons des ressources pour supporter le gouvernement, parce qu'il faut le dire. Il ne s'agit pas des projets de la Banque mondiale. Il s'agit des projets du gouvernement congolais. C'est les projets des Congolais qui sont supportés et financés par la Banque mondiale. Et c'est très important parce qu'en fait, même la mise en œuvre de ces projets, c'est la responsabilité du gouvernement, pas de la Banque mondiale.
La Banque mondiale ne fait que financer.
Elle finance et elle encadre, elle supporte le gouvernement pour mettre en œuvre ces projets.
Est-ce qu'elle évalue après tous ces projets?
Oui, bien sûr. Nous faisons des évaluations après. Nous faisons même des évaluations continues pour s'assurer que les ressources qu'on met à la disposition des gouvernements atteignent leurs objectifs.
Et lorsque ces ressources n'atteignent pas leurs objectifs, vous faites quoi?
Vous
suspendez le financement?
Et ça, c'est très important et c'est fondamental de comprendre que lorsque, après évaluation, nous rendons compte que les ressources n'ont pas été utilisées à bonne fin, les gouvernements remboursent cet argent à la Banque mondiale. Donc, il ne s'agit pas des ressources que l'on peut juste distraire ou les prendre sans conséquence. Non. Uh-huh. Elles doivent absolument être utilisées pour ce pourquoi le gouvernement a demandé.
Troisième priorité,
les investissements dans le développement durable. Vous savez, nous avons parlé de cette catastrophe naturelle, les glissements de terrain. C'est le signe que le Congo est victime des changements climatiques, de l'effet des changements climatiques, n'est-ce pas? Et donc nous travaillons pour nous assurer que on puisse investir pour prémunir et protéger la population de ce genre de désastre. C'est nos investissements dans le développement durable. Donc nous travaillons pour supporter les projets dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine de l'environnement et la protection des forêts. Et les luttes contre les érosions. Vous savez, ici à Kinshasa, si vous allez à Kimwenza, par exemple, avec toutes les érosions qu'il y a, ça devient pratiquement impossible non seulement de circuler, mais il y a des maisons entières qui sont emportées par les érosions. Donc, nous travaillons pour stabiliser les pentes, planter des arbres pour s'assurer effectivement que l'effet de ces érosions ne soit plus autant désastreux.
Et là aussi, oui. C'est à travers des projets que le tout gouvernement vous propose.
Tout à fait. Et un autre exemple, c'est celui de l'eau, n'est-ce pas? Si vous habitez Kinshasa, vous savez qu'il y a le projet Ozone, n'est-ce pas? Et Ozone, c'est un projet du gouvernement qui a été financé par la Banque mondiale. Et à terme, ce projet va donner de l'eau potable à plus de 2 millions de Kinois. Et c'est un projet financé par la Banque mondiale. Donc, nous avons ce genre de projet. Nous sommes en train de travailler sur le plateau Bateke pour supporter les populations qui plantent des arbres en zone de savane, qui peuvent donc être utilisés pour faire du makala plutôt que de couper la forêt primaire. N'est-ce pas? Ça participe à protéger la forêt primaire qui est le deuxième poumon de l'humanité et qui fait du Congo un pays solution. Donc, voilà ce genre d'investissement. Quatrième priorité, si vous le permettez, c'est le travail que nous faisons pour soutenir le gouvernement dans la réforme du cadre macroéconomique et renforcer les institutions. Et là, il s'agit, à travers nos appuis budgétaires, de promouvoir des bonnes politiques économiques, n'est-ce pas ? Et les mettre en œuvre pour s'assurer effectivement que les décisions soient les meilleures. Et cela rejoint donc notre et là aussi dans cette quatrième priorité, il y a tout ce qui est la lutte contre la fragilité, n'est-ce pas? Dans l'est du Congo, comme on le sait à l'heure actuelle, il y a la guerre et il y a des déplacements énormes de populations. On parle des centaines de milliers de personnes qui quittent leur domicile à cause de la guerre. Nous travaillons avec le gouvernement pour nous assurer qu'il y ait une réinsertion une fois que la paix est revenue, une réinsertion dans leur communauté, une réinsertion qui se fait à travers la création d'emplois et qui donne donc des alternatives à cette jeunesse. Des alternatives, plutôt que d'aller dans les groupes armés, de faire du travail qui rémunère et qui leur donne les moyens de vivre décemment. Voilà ce que nous pouvons faire, nous faisons avec le gouvernement. Et la dernière priorité, c'est en fait une que beaucoup ignorent, c'est que la Banque mondiale est avant tout une banque du savoir. C'est pas seulement un gros chéquier qui vient et donne de l'argent au gouvernement. Non, ouais. C'est d'abord une banque de savoir.
Banque du savoir, qu'est-ce que cela signifie concrètement?
Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que nous faisons des études et des analyses très, très solides, très techniques qui permettent de donner des conseils au gouvernement. Vous savez, j'ai travaillé pendant très longtemps dans les pays d'Asie du Sud-Est et beaucoup de ces pays viennent à la Banque mondiale pas pour demander de l'argent, mais pour demander les conseils. Donc, ça, c'est un autre aspect.
Conseil sur la bonne gouvernance.
Conseil sur la bonne gouvernance, conseil sur la gestion macroéconomique, conseil sur l'industrialisation, conseil sur la création d'emplois, conseil sur comment faire en sorte que les pays échappent à la pauvreté. Et nous avons tout un arsenal qui est développé à la Banque mondiale pour conseiller les gouvernements qui veulent le faire. Et ça, c'est, vous savez, il y a des gouvernements, en fait, au monde qui payent pour ces conseils, qui viennent à la Banque mondiale et nous payent de l'argent pour qu'on leur donne des bons conseils parce qu'ils sont déterminés à faire que leur pays s'en sorte, parce qu'ils sont déterminés à faire que leur pays soit les meilleurs au monde.
Ils viennent pour ce genre de conseils, vous leur prodiguez des conseils, mais comment expliquer qu'en Afrique, la plupart des pays africains sont toujours pauvres?
Mais écoutez, vous savez, la Banque mondiale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, travaille aux côtés des gouvernements. Et la Banque mondiale, tout comme aucune institution ne peut toute seule développer un pays, n'est-ce pas? C'est fondamental de comprendre que les pays se développent quand les leaders de ce pays, l'élite de ce pays, la population tout entière refuse la misère. Quand les populations, les leaders et l'élite décident de faire de leur pays un des meilleurs au monde, ils peuvent avoir l'aide des organismes comme la Banque mondiale pour le faire. Donc, la responsabilité doit être claire. C'est pas que la Banque mondiale vient développer les pays. C'est quand les pays se décident à se développer et demandent l'aide de la Banque mondiale, c'est là où on voit les meilleurs résultats.
On va faire une pause en prenant ce premier auditeur qui nous appelle de Kinshasa. Il s'appelle Maître Francis Visso. Si la réalisation est prête, on peut ouvrir le standard pour écouter cet auditeur.
Maître Francis Visso depuis Kinshasa. Je voulais d'abord remercier la Banque mondiale pour ses activités qu'elle appuie en RDC, notamment dans l'éducation, dans plusieurs secteurs. Et nous aimerions qu'elle fasse encore plus mieux pour que le pays soit bénéficiaire de toutes ces prestations. Mais j'avais une question à poser à notre invité. Je voulais savoir quels sont les critères qui concourent dans les choix des secteurs dans lesquels la Banque mondiale doit investir.
Excellente question, maître. Nous avons ce que nous appelons un cadre de partenariat stratégique. C'est-à-dire que tous les 5 ans, nous nous asseyons avec les gouvernements des pays et dans ce cas précis, nous avons avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, en 2022, discuté et nous sommes tombés d'accord sur un cadre de partenariat stratégique. C'est donc un cadre qui définit l'orientation générale des activités de la Banque mondiale dans le pays. Donc, nous sommes accordés sur ces thèmes que je viens de mentionner tout à l'heure. Et donc, c'est pas au hasard, nous n'intervenons pas au hasard. Et dans ce cadre de partenariat stratégique, nous avons même identifié avec le gouvernement les provinces dans lesquelles nous allons commencer, nous allons mettre l'accent le plus fort pour effectivement s'assurer qu'on éradique la pauvreté au Congo. Donc, nous sommes concentrés sur notre cadre de partenariat se concentre sur 10 provinces qu'on a identifiées comme étant critiques pour cette mission d'éradiquer la pauvreté et de créer la prospérité au Congo. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur d'autres parties du pays. Il y a des programmes comme celui de l'éducation, comme ceux de la santé que je n'ai pas mentionné, hein, qui couvrent tout le territoire national. Donc, voilà comment nous sélectionnons ces activités. C'est en consultation avec le gouvernement.
Est-ce qu'il vous arrive aussi de faire des propositions au gouvernement, par exemple? C'est vrai que c'est le gouvernement qui vient avec ses projets, mais lorsque vous faites des études sur un pays donné, est-ce que vous pouvez aussi proposer quelque chose au gouvernement?
Tout à fait. Dans les échanges et dans les discussions que nous avons avec les gouvernements, il est d'usage que nous puissions, par exemple, dire, voilà, tel pays qui avance bien fait telle chose, Et ça, c'est peut-être une chose que vous pouvez considérer. Mais c'est au pays de décider de vouloir le faire et en faire la demande. Parce que ça aussi, c'est fondamental. La Banque mondiale ne fait rien sans qu'il y ait une demande du gouvernement et nous y répondons, n'est-ce pas? Mais oui, dans les discussions, comme je vous ai dit, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans les pays d'Asie. Il y a des choses que j'ai vu faire dans ces pays qui peuvent aider nos pays à s'en sortir. Dans les discussions, s'il y a intérêt du Congo, naturellement, on peut en discuter. Et dans d'autres pays, je couvre l'Angola aussi, par exemple. Là, je vais, par exemple, organiser une mission avec certains membres du gouvernement angolais pour aller à Singapour et en Malaisie pour bien comprendre comment on gère les entreprises publiques de façon à ce qu'elles rapportent de l'argent à l'État, pas l'inverse. Les Angolais sont très intéressés pour étudier ça parce que les Singapouriens et les Malaisiens l'ont fait, au point où les entreprises publiques rapportent de l'argent et donnent des services de qualité et d'exception à leur population. Ils veulent le savoir. Voilà, on va travailler avec eux pour les exposer à cette expérience. Et si le gouvernement angolais veut faire les réformes qu'il faut, nous allons les accompagner. Voilà comment ça se passe.
Quelle est la taille du portefeuille de la Banque mondiale en RDC?
Le portefeuille, nous espérons atteindre 8,5 milliards de dollars. C'est le plus gros portefeuille de n'importe quel bailleur de fonds au Congo. N'est-ce pas? 8,5 milliards de dollars. C'est le montant de nos engagements. Et il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une caisse d'argent
oui.
que le directeur de la Banque mondiale a dans son bureau. Non, il s'agit des engagements. Il s'agit donc des projets que nous avons discutés et dont nous avons accepté, que notre conseil d'administration a accepté de financer. Mm-hmm. N'est-ce pas? Donc il y a ces ressources qui sont disponibles.
Vous espérez atteindre 8,5 milliards.
5 milliards en fin juin de cette année. On est à plus de 7,5 milliards, oui.
Ah, d'accord.
Oui. Ce portefeuille se décline en 23 projets. Nous avons 23 projets dans les domaines que j'ai évoqués tout à l'heure. 23 projets qui vont, au fur du temps, décaisser pour mettre cet argent à la disposition du gouvernement pour rendre les services pour lesquels ces projets sont faits. Donc, quand on dit 8 milliards, c'est des engagements. 8,5 milliards, c'est des engagements. Et nous décaissons au fur et à mesure que les projets sont mis en œuvre. Parce qu'il est important de dire que ces ressources n'atteignent les bénéficiaires que lorsqu'on met en œuvre les projets. Par exemple, nous avons dans notre portefeuille une route entre Bujimaï et Bukavu. N'est-ce pas? Mais on n'a pas encore commencé à la construire. C'est quand on va commencer à la construire que les populations de Bujimaï vont ressentir l'effet à travers les dépenses des gens qui travaillent là-dessus, à travers les gens qu'on va recruter pour travailler sur la route, à travers les revenus que les mamans dans le Kasaï vont obtenir en vendant leurs ananas, ainsi de suite. Donc ces projets ne se ressentent au niveau de la population que lorsqu'on accélère la mise en œuvre. Et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Nous sommes là pour les accompagner, mais il faut créer ces unités de mise en œuvre dans les ministères et les équiper de tous les talents qui sont nécessaires pour s'assurer que les décaissements se fassent vite et se fassent bien, c'est-à-dire sans corruption. Parce que nous sommes très, très, très à cheval sur les questions de gouvernance. Les ressources
justement,
de la Banque mondiale.
En parlant de gouvernance, oui. La Banque mondiale, c'est un partenaire de la RDC. Vous accompagnez le gouvernement congolais. Quel est votre avis sur la question de gouvernance en RDC?
Notre avis, c'est que, comme tout pays en développement, nous devons continuer à lutter contre la corruption. Nous devons lutter pour la bonne gouvernance et je crois que le président de la République a lancé des programmes de lutte contre la corruption qui commencent à porter des résultats. Vous avez vu vous-même tous les rapports publiés par l'Inspection générale des finances qui aujourd'hui, au niveau du gouvernement, enquête et publie les résultats de ces enquêtes. C'est un très très bon pas vers la bonne direction. Il faut renforcer ce genre d'opérations. Écoutez, dans tout pays au monde, il y a des problèmes de gouvernance. Certains beaucoup plus sérieux que d'autres, dans tous les pays du monde. Et c'est à chaque pays de trouver la formule pour s'assurer que les ressources publiques ne soient pas détournées. Que les ressources publiques soient utilisées pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Que les ressources publiques soient utilisées pour créer l'infrastructure, pour créer les écoles et les hôpitaux qui font que les pays se développent. Naturellement, et il faut déjà commencer par enquêter, publier les résultats, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi continuer pour lutter contre l'impunité. Tout à fait. Et c'est le cas partout.
On va prendre ces deuxièmes auditeurs qui nous appellent depuis Timbulu. Timbulu, c'est dans le Kasaï central. On va l'écouter.
François Lamo-Saint-Timba, depuis la ville de Timbulu, dans la province Kasaï central.
À mon humble avis, un pays ne peut pas se développer pendant que sa population est affamée, d'où l'agriculture vaut son pesant d'or. Mais pour cultiver, il faut tout d'abord aménager nos routes de dessertes agricoles. Par exemple, dans les territoires de Djibaya, il y a une sorte de terre argilo-sablonnée qui a une fertilité qui peut aider à ce qu'une partie de la province du Kasaï central, pourquoi pas, les grands Kasaï soient nourris en maïs. D'où je demande à la Banque mondiale de privilégier les secteurs d'agriculture ainsi que aménager nos routes. S'agissant des relations qui sont entre cette Banque mondiale et la RDC sont très bonnes parce que nous avons vu certaines réalités palpables. Par exemple, dans le secteur d'enseignement, la Banque mondiale a fait un grand pas. Mais ce qui est très important, c'est de privilégier les secteurs d'agriculture ainsi qu'aménager différentes tronçons des routes de dessertes agricoles.
Monsieur Albert.
Oui. Non, je crois que vous avez tout à fait raison. Et nous avons dans notre portefeuille deux gros projets dans le domaine agricole. L'auditeur a raison sur deux choses. Un, l'agriculture est clé. Il faut la sécurité alimentaire. Mais un pays comme le Congo a la capacité non seulement de se nourrir, mais de nourrir toute l'Afrique, si ce n'est nourrir le monde entier. Mais cela suppose que notre agriculture change. Notre agriculture ne peut pas continuer à être une agriculture de subsistance et éradiquer la pauvreté. Partout dans le monde, là où les pays ont éradiqué la pauvreté, ils ont augmenté la productivité de l'agriculture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que les agriculteurs aient la technologie, aient la mécanisation, aient l'irrigation pour ne pas seulement attendre qu'il pleuve avant de planter. Et vous savez, avec cela, on peut avoir plusieurs récoltes par an et permettre aux populations des zones rurales de connaître aussi la prospérité. Donc l'agriculture est fondamentale, mais il faut qu'on pense à une agriculture nouvelle, une agriculture qui est technologique, une agriculture qui est capable de changer la vie des gens plutôt juste que de donner bon an, mal an de quoi manger. Donc ça c'est vraiment important et nous travaillons là-dessus avec le gouvernement. La deuxième chose que l'auditeur a dite, c'est pour que l'agriculture se transforme, il faut l'infrastructure. Et ça, c'est une responsabilité fondamentale du gouvernement. Il faut que le gouvernement construise les infrastructures dans ce pays. Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement. Comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de financer une route qui va commencer à être construite entre Boujimaï et Bukavu. Et pendant qu'on construit cette route, nous allons faire trois choses. Nous allons faire aussi des routes de dessert. Ce sera pas seulement... Et puis, je voudrais peut-être déjà préciser. La majorité des routes que la Banque mondiale a construites dans les années 90 dans ce pays ont été déjà détruites par l'environnement, mais aussi détruites par le manque d'entretien. Et ça, il faut le dire, n'est-ce pas? Et donc, c'est important que désormais, lorsqu'on fait de l'infrastructure, qu'on tienne compte du changement climatique. Vous avez vu ce qui se passe dans le sud Kivu avec les éboulements et les inondations? Ça détruit les routes, si on ne les construit pas de façon à ce qu'elles soient résilientes au changement climatique. Ça, c'est très important. Donc, pendant qu'on construit cette route, nous allons faire aussi des pistes de dessertes agricoles. Mais nous allons aussi faire deux autres choses. On va s'assurer qu'on y mette la fibre optique pour que le numérique atteigne nos zones rurales aussi. On va mettre les fils électriques pour s'assurer que l'électrification y arrive. On va s'assurer aussi qu'on mette les canaux pour l'eau, pour s'assurer que les populations, même en zone rurale, aient accès à l'eau potable. Voilà comment on amène le développement dans toutes les parties du pays. Et la route est un des éléments fondamentaux du développement.
Il y a Madame Magali qui nous écrit depuis Likasi, dans la province du Haut-Katanga, qui dit ceci: la Banque mondiale soutient l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes en RDC à travers le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Est-ce que ce projet est toujours opérationnel et quelle évaluation vous en faites?
Ah, ça c'est une excellente remarque, c'est vrai. Un de nos projets consiste à promouvoir l'entrepreneuriat et surtout le petit entrepreneuriat. Et je peux vous dire que lorsque j'ai visité Goma il y a quelques mois, j'ai rencontré un groupe de femmes et d'hommes que ce projet supporte, et de leur propre évaluation, ce projet leur a permis de doubler ou de tripler leur emploi. Des gens qui sont passés de 3 employés à 10 employés, des gens qui ont pu, par ce projet, commencer à vendre leurs produits hors de Goma et partout ailleurs sur le territoire. Donc, ce type de projet, oui, madame, la réponse est oui, ce projet est toujours en vigueur et nous continuons à travailler avec les entreprises sélectionnées. Nous verrons dans le futur comment on peut l'étendre à d'autres parties du pays.
Il y a des critères lorsque vous faites la sélection des entreprises?
Oui, mes collègues qui travaillent dans le développement du secteur privé ont des critères très très spécifiques pour sélectionner les entreprises et de façon absolument transparente.
La réalisation me signale qu'il y a notre auditeur en ligne qu'on va prendre. Il nous appelle de Kinshasa.
Junior Bompongo, à partir de la ville province de Kinshasa. La relation entre la RDC et la Banque mondiale est complexe et évolutive. Depuis plusieurs décennies, la Banque mondiale a soutenu la RDC dans les domaines tels que l'éducation, la santé, la gouvernance et le développement économique. Cependant, cette relation a été également marquée par des critiques sur la gestion des fonds et les conditions de prêts imposées par la Banque mondiale. Malgré ces défis, la RDC continue de travailler avec la Banque mondiale pour atteindre ses objectifs de développement, notamment grâce à des projets tels que le projet d'appui à la transformation de l'agriculture et le projet d'appui au secteur de l'énergie électrique. Alors, il est donc important que les deux parties continuent de collaborer pour améliorer les conditions de vie des Congolais et stimuler la croissance économique dans notre pays.
Alors, je pense que c'est un avis que l'auditeur donne, un commentaire par rapport
c'est,
à...
C'est un avis et c'est un avis...
Cet avis.
C'est un avis tout à fait pertinent. Et je voudrais juste rebondir sur ce commentaire pour parler un tout petit peu des conditions de financement. Ce que les auditeurs doivent comprendre, c'est que le Congo fait partie des pays qui ont un revenu par tête très faible. Et ces pays qui sont ce qu'on appelle les pays IDA, c'est-à-dire les pays à faible revenu par tête, les conditions de financement de la Banque mondiale sont très favorables. La moitié de tous les engagements qu'on fait au Congo, c'est des dons. La Banque mondiale ne s'enrichit pas, si vous voulez, sur les pays les plus pauvres. La moitié de tous les engagements des 8,5 milliards, c'est des dons. Mais pour ceux qui...
Lorsque vous parlez de dons, ça veut dire que le gouvernement ne rembourse pas.
Ça veut dire que le gouvernement ne rembourse pas, mais pour ceux qui ont des prêts, ils remboursent avec des taux d'intérêt très faibles. Et des fois, c'est des taux d'intérêt de moins d'1% sur des projets de développement qui peuvent aller jusqu'à 30 ans. Donc, c'est des ressources très rares. Et tous les pays du monde qui sont à faible revenu recourent à ces ressources, viennent à la Banque mondiale les demander pour lancer leur développement. Parce que vous ne pouvez pas trouver des conditions comparables sur les marchés. Donc, c'est une ressource rare qu'il faut bien utiliser. Et donc, d'accord avec l'auditeur, nous devons continuer notre collaboration avec le gouvernement de la RDC pour s'assurer que nous, de notre côté, on mobilise davantage de ces ressources concessionnelles, c'est-à-dire des ressources moins chères pour le Congo, et que du côté du Congo, que l'on s'organise, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement, l'élite et les populations s'assurent que ces ressources sont utilisées à bon escient.
Alors, Franck de Kinshasa, beaucoup de réactions de Kinshasa, vous demande, monsieur le directeur, selon vous, quel est le vrai problème du développement de la RDC?
Ah, ça, c'est une question complexe. Il n'y a jamais une seule clé pour développer un pays. Mais... si je peux, une fois de plus, tirer de mon expérience en travaillant avec les pays d'Asie du Sud-Est qui vraiment se sont développés de façon fulgurante ces 50 dernières années, je dirais que la qualité du leadership compte. La qualité du leadership compte. Mais quand on dit leadership, c'est pas seulement le président ou les ministres, c'est l'élite du pays, n'est-ce pas? Il s'agit de trouver un consensus au niveau de la société qu'ensemble on doit refuser la misère, qu'on doit éradiquer la pauvreté, que personne ne soit confortable avec la pauvreté. Ça, de mon expérience, quand la société atteint ce niveau, quand les élites d'un pays atteignent ce stade de discussion où les gens ne voient plus le pays comme un gâteau qu'on se partage, mais comme une ressource qu'on doit valoriser pour le futur de nos enfants. Une ressource qu'on doit faire grandir pour la fierté de la génération future. Une ressource qu'on doit absolument préserver et développer et agrandir. Alors on change complètement de dynamique et le développement s'enclenche.
Comment la Banque mondiale soutient-elle le gouvernement congolais pour améliorer sa gouvernance?
Alors, je pense que pour améliorer la gouvernance, il faudra...
De manière concrète.
De manière concrète. Nous avons un projet qu'on appelle projet Encore, n'est-ce pas, qui soutient les administrations. Vous avez vu récemment l'inspection générale des finances qui parle des faux fonctionnaires. Il faut absolument que la fonction publique puisse vraiment adresser de façon frontale le problème de la corruption. N'est-ce pas? La gouvernance, quand on parle de gouvernance, le premier point de contact de l'investisseur, c'est la fonction publique, c'est les services publics. Il faut s'assurer que la fonction publique soit efficace, qu'elle soit absolument capable de favoriser le développement, d'aider l'investisseur privé à créer des emplois et pas l'inverse. Donc, nous avons un projet concrètement qui travaille avec les administrations pour pouvoir renforcer la capacité des administrations à devenir plus efficientes. Donc ça, c'est une des choses. La deuxième des choses que nous faisons, c'est de créer la capacité au niveau des provinces aussi pour la gestion financière, pour pouvoir gérer aussi les projets de développement. Parce que la décentralisation fait partie de la Constitution de la République démocratique du Congo. Et nous pensons que pour une bonne gouvernance, il faut que les provinces soient beaucoup plus fortes et soient équipées de compétences pour mieux gérer. Et donc ça, c'est un élément aussi de la gouvernance, la bonne gouvernance sur lequel nous travaillons avec le gouvernement du Congo. Et nous travaillons aussi avec le gouvernement pour l'amélioration du climat des affaires, n'est-ce pas? Et comme je vous l'ai dit, le développement se fait par le secteur privé. C'est pas les administrations qui développent un pays. Elles facilitent le développement, mais c'est le secteur privé qui crée des emplois. Donc, dans les pays d'Asie, juste pour vous donner un exemple, un pays comme la Malaisie où j'ai travaillé, résidé, où j'ai conseillé le premier ministre, conseillé le ministre des Finances, vous ne pouvez pas demander $1 à un investisseur qui vient dans le pays parce qu'il vient créer des emplois. Il vient créer la richesse dans le pays. Vous ne pouvez pas demander un rond. Et le critère de performance du ministre de l'Industrie dans ce pays-là, c'était combien de milliards d'investissements vous amenez dans le pays par an. Et on comptabilise. Et si le ministre n'atteint pas son critère de performance, il est viré, n'est-ce pas? Donc, voilà ce genre de choses concrètes pour améliorer la bonne gouvernance, parce que ce n'est qu'ainsi qu'on peut créer la richesse dans le pays et permettre aux populations d'avoir des emplois qui rémunèrent bien, éradiquer la pauvreté.
En parlant du climat des affaires, vous êtes en RDC, vous observez comment les choses se passent au pays. Le climat des affaires actuel en RDC permet-il aux investisseurs de venir investir?
Écoutez, nous avons dans le passé travaillé avec nos outils comme le Doing Business et nous sommes en train de refonder la méthodologie de Doing Business et avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, nous avons convenu de pouvoir déployer la nouvelle méthodologie pour évaluer le climat des affaires pour le Congo dans l'année qui vient. Et avec cette nouvelle méthodologie, nous pourrons être plus précis par rapport au classement du Congo par rapport aux autres pays dans le monde. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour que le climat d'investissement, surtout le climat qui permettra la transformation et l'industrialisation du Congo. Et c'est important parce que ça demande beaucoup plus d'efforts. C'est plus simple d'attirer des investisseurs qui vont venir juste dans les mines creusées et repartir. C'est plus difficile d'attirer des investisseurs qui vont s'installer au Congo, transformer pour créer des emplois dont la jeunesse a besoin. c'est beaucoup plus de travail que cela requiert. Donc, il faut vraiment qu'on change d'état d'esprit et que l'on organise, on s'organise au niveau de la République démocratique du Congo pour créer ce climat des affaires qui fera en sorte que les investisseurs qui fabriquent les pièces détachées de voitures, qui fabriquent les batteries électriques, qui fabriquent, et pourquoi pas fabriquer la voiture électrique au Congo, n'est-ce pas? Mais cela requiert beaucoup, beaucoup d'efforts.
Pourquoi la Banque mondiale avait suspendu la publication de son étude du Doing Business?
Oui, nous l'avons suspendu parce que à un moment, on a fait une évaluation, on s'est rendu compte que la méthodologie n'était plus aussi propice qu'elle devrait l'être. Elle nous donnait plus à nous-mêmes des garanties de transparence dans la comparaison. Et donc, nous avons, comme toute bonne institution, fait le constat et changé de méthodologie. On a pris tout un temps pour réévaluer et changer de méthodologie pour nous assurer que nos classements et nos notations soient toujours les plus transparentes possibles. Merci.
Avant de vous libérer, la réalisation me souffle qu'il y a un auditeur qui a envoyé un SMS qui aimerait savoir si le monsieur s'appelle Berry. Il dit ceci, sa question pourrait paraître banale, mais est-ce que la Banque mondiale ne finance que les gouvernements? Les privés peuvent-ils bénéficier du financement de la Banque mondiale?
Excellente question. Ça me permet de dire, quand on dit le groupe de la Banque mondiale, c'est la branche IDA, dans ce cas, qui prête au gouvernement, n'est-ce pas? Il y a la branche SFI, la Société financière internationale, qui traite avec le secteur privé et qui prête donc aux entreprises du secteur privé et prête aux banques. Et nous avons notre branche de la SFI ici au Congo, désormais a des programmes avec les banques ici au Congo pour pouvoir prêter aux petites et moyennes entreprises congolaises. Donc, il y a cet aspect. Et le troisième aspect du groupe Banque mondiale, c'est le MIGA, qui est notre institution de garantie. C'est-à-dire, concrètement, si le climat des affaires est propice au développement industriel au Congo, et qu'une entreprise comme Toyota veut venir fabriquer des voitures, une entreprise comme BMW, qui le fait déjà en Afrique du Sud, veulent venir produire leurs voitures au Congo, MIGA peut travailler avec eux pour leur donner des garanties, pour s'assurer qu'ils soient confortables pour produire au Congo. Donc voilà ce que c'est que le groupe de la Banque mondiale.
Alors Monsieur Berry, je pense que vous avez suivi la réponse de Monsieur Albert Zefak, à qui nous disons merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur des opérations pour la République démocratique du Congo, l'Angola, le Burundi et le Sao Tomé et Principe. Avez-vous une autre précision à apporter qui nous a peut-être échappé sur le travail de la Banque mondiale en République démocratique du Congo?
Je pourrais juste peut-être conclure en disant que je suis très heureux de travailler ici en République démocratique du Congo à ce moment particulier. Pourquoi? Parce que la RDC, à l'heure où nous sommes, est un pays qui est à la charnière de la transition énergétique globale. Le Congo est un pays important pour les Congolais. C'est encore plus important pour l'Afrique et c'est beaucoup plus important pour la planète tout entière. En raison non seulement de sa forêt, en raison de ses minéraux critiques qui sont utilisés pour les batteries, les voitures électriques, les fusées. Le Congo est un pays important pour le monde et je voudrais que les Congolais s'en rendent compte, qu'ils se l'approprient et qu'ils le transforment pour leur propre bien-être d'abord, mais pour le bien de l'Afrique. Si ce pays décolle, l'Afrique tout entière décolle. Mais ce pays a également beaucoup de difficultés. C'est un pays à risque au niveau de la pauvreté. Si nous continuons comme nous le faisons à l'heure actuelle, en 2050, le Congo sera le troisième réservoir de pauvreté au monde. Nous ne pouvons pas accepter cela. Merci, merci à tous les auditeurs.
Merci beaucoup.
Merci.
Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Willem Lungamba et Charlie Louyeye qui étaient à la mise en onde, présentation et coordination. Kéline Kouté, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.